Cet après-midi, je vous propose la chose suivante. Dès que vous êtes trop fatigué, vous vous levez. Si vous tombez, c'est que vous dormez, vous allez vous réveiller. Mais voilà ce que je vise. J'aimerais vous donner d'abord, j'essaie toujours de fonder bibliquement ce que je raconte pour ne pas dire trop de bêtises. Je vais essayer de donner des exemples de partenariats bibliques dans différents domaines. De voir courtement, je vous donne quelques illustrations comment nous on essaye de les appliquer. Je me rends compte en discutant avec vous que vous avez beaucoup plus d'expérience que nous parce que vous existez depuis tellement longtemps et ainsi de suite. Mais enfin, peut-être qu'il y aura l'une ou l'autre idée qui vous sera profitable. Et je vais, dans un deuxième temps, développer les avantages de l'esprit du partenariat et je vais terminer avec ce qui freine les partenariats, en espérant que ça ne vous concerne pas du tout la dernière fois. Voilà. Alors d'abord, quelques exemples de partenariats bibliques. En tout cas, on constate vraiment à la lecture du Nouveau Testament que les églises locales sont en relation les unes avec les autres. Ces relations en Christ, comme on l'a vu ce matin, se traduisent vraiment de manière concrète. Et c'est ces quelques exemples que je vais vous donner. Alors il y a une première manière d'avoir des relations, c'est par les délégués des églises. Dieu se sert de la persécution pour que l'église de Jérusalem obéisse à l'ordre missionnaire. L'église est dispersée. Et parmi les dispersés, il y avait un évangéliste qui s'appelait Philippe. Très bien, je vais vous faire participer pour que vous restiez avec moi. Il prêche la bonne nouvelle, des gens croient et sont baptisés. Que fait l'église de Jérusalem? Elle envoie, effectivement, des délégués pour voir ce qui se passe. Je vous lis le texte. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. De nouveau deux. Non, partenariat. Leur présence a permis de préserver certainement l'unité de l'Église à ce moment-là, malgré l'animosité qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. On retrouve la même préoccupation lorsque des païens se convertissent où ? À Antioche de Syrie. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent qui ? Barnabas jusqu'à Antioche. J'en tire une application pour nous. Il est important que l'église locale reste préoccupée par le ministère des siens que Dieu a envoyé en d'autres lieux. Je donne un exemple. Moi, je suis touché par l'exemple de certains anciens d'église, par exemple, ou des animateurs de groupes de jeunes qui régulièrement mobilisent une équipe de leur église pour aller rejoindre un missionnaire qu'ils ont envoyé dans une autre ville. Quel encouragement pour le missionnaire quand un ancien de son église vient ou quand un animateur de jeunesse vient avec des jeunes. Quelle opportunité pour former des jeunes et leur communiquer une vision missionnaire. Quelle occasion pour leur apprendre à mettre leur argent dans l'implantation d'églises plutôt que dans des voitures hors de prix. Je vous encourage, chaque fois que vous avez l'occasion, la formation des jeunes passe par le fait de faire avec eux. Pas être en salle de réunion, mais en situation d'évangélisation, enfin, plus on fait de choses ensemble, plus on se forme. Il y a une autre occasion où ces délégués peuvent être importants, c'est les situations de crise dans les équipes d'anciens. Ce sont aussi des moments où l'Église a besoin de l'intervention extérieure, de médiateurs, et parfois les autres églises ou l'union d'églises ou la mission va former du personnel pour cela. Et donc, on voit là aussi des délégués pour aider. Parfois, les anciens n'aiment pas trop qu'on vienne regarder ce qui se passe dans leur église. Mais quand ils sont tellement en crise qu'ils peuvent plus parler, ils sont souvent d'accord pour que quelqu'un vienne les aider. Mais c'est comme ça, hein. Parfois, il faut qu'on soit tout en bas pour que quelqu'un vienne, qu'on accepte que quelqu'un nous aide. Première source de partenariat ou outil, ce sont les délégués des églises qui sont envoyés pour voir ce que deviennent ceux qui sont partis. Ensuite, il y a les collectes. Non seulement Barnabas a eu un ministère fructueux à Antioche, Mais l'église d'Antioche va à son tour se préoccuper du bien de l'église de Jérusalem, lors de la famine sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et puis même les églises de Macédoine et de l'Achaïe, qui sont bien plus éloignées de la Judée que la Syrie, vont y participer de tout leur cœur. Et c'est intéressant, Paul l'organise avec beaucoup de soin. Et un de ses accompagnateurs pour apporter la collecte était un délégué d'ailleurs des églises. Donc quand on gère de l'argent, il faut toujours être soigneux. Quand nous on ouvre les chèques, quand ils arrivent à France Pro Christ, il y a toujours deux personnes qui le font. Mesure de sécurité, que personne ne soit tenté. Il n'y a donc pas seulement des relations d'église mère et d'église fille, mais il y a une réciprocité dans la relation entre les églises. Il y a une mutualisation qui repose sur le principe du partage et de l'équité. Dans Corinthiens, il dit « Votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que plus tard leur abondance pourvoira aussi à vos besoins. » Donc les païens convertis qui ont eu part aux avantages spirituels des Juifs vont à présent assister ces derniers par des dons matériels. Donc entraide matérielle, collecte entre les églises. Je sais que ça existe chez vous. Le frère, je ne sais plus comment il t'appelle là, qui a ton fils à Hearst.
Lionel
m'a donné un exemple avant. Mais on a dans notre secteur, pas dans notre secteur, dans notre réseau, ce qu'on appelle le réseau 55+. Ce sont simplement des personnes qui ont plein de compétences manuelles, qui se retrouvent régulièrement pour s'encourager et se mettre à la disposition des églises qui ont des travaux, des centres missionnaires. Franchement, ils sont un tel encouragement pour les jeunes églises qui démarrent quand ils viennent avec toutes leurs compétences, tac, tac, leur outillage, et puis en 15 jours, ils font rénover toute une salle, et ainsi de suite. C'est formidable, vous avez ça aussi. Mais enfin, je trouve que c'est une bonne manière de s'entraider entre églises. À la mission France Pro Christ, moi je suis vraiment touché par le nombre de dons en nature que nous recevons. Franchement, ces dernières années, je pense sur 15 ans, on a eu des tonnes de yaourts. De quelqu'un qui les fabrique, en plus c'est bio, ça vaut des, je sais pas combien ça vaut, mais c'est phénoménal. Pour toutes nos rencontres, je téléphone à ce frère et je dis, on a une rencontre de 40 ou de 50 ou de 80 personnes, ben, il nous fournit pour toutes les rencontres les yaourts, les desserts, le fromage blanc pour faire de la tarte flambée. C'est des miracles. On a un frère de l'église de Haguenau, tous les ans. Il est d'ailleurs d'origine mennonite. Ah, ils ont dit bon, les mennonites. Tous les ans, chaque année, il tue une vache. Il conditionne la viande, il la ramène et remplit nos frigos pour que quand les missionnaires de Lille et de je sais pas d'où, qui habitent en pleine Lille, repartent de nos rencontres missionnaires, ben, ils ont dans leur glacière du bœuf. Manger du bœuf, c'est formidable hein, quand même, quand vous voyez ce que coûte le kilo. Plein de personnes savent qu'on récolte des habits de seconde main. Il y a un temps où je portais les costumes Hugo Boss. C'est pour tout, ils passent de l'église, waouh, il est bien friqué, le directeur de France Pro Christ. Non, non, c'est simplement un commercial donnait ses costumes dès qu'ils changeaient. Ils étaient à ma taille, c'était bien. Je dis, viens, reste ami, madame. Non, non. Mais plein de gens nous donnent des habits. Et alors, quand on a notre camp de la mission, on fait une journée de braderie. On sort tous les habits qu'on a accumulés durant l'année et toutes les épouses, juste avant la rentrée, partent avec tout ce qu'il faut pour les enfants, pour les maris et tout ça. C'est une aide formidable. C'est pas une collecte. Mais franchement, moi j'ai énormément d'habits de seconde main. C'est une aide financière exceptionnelle pour les missionnaires. Quand j'ai découvert, et je trouve parfois c'est des choses toutes pratiques, ce matin, un de nos frères, Jean-Paul, je crois, m'a dit, mais tiens, quand on n'est pas prédicateur, quand on ne sait pas organiser la louange, comment on peut aider? Je me rappelle quand la première fois, Jean-Jacques Herman, j'avais 16 ans, il partait dans notre église, et quand il me racontait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, je me rappelle, je suis rentré, j'ai regardé dans mon armoire le nombre de pantalons que j'ai, je lui ai dit, écoute, ben voilà, il y en a au moins deux qui peuvent partir. Et c'est des choses toutes pratiques, comme ça. Il faut donner des infos pour que tout le monde puisse contribuer. Je donne un autre exemple. Parfois, les membres d'église critiquent la qualité des préparations de leurs enseignants qui font cela le soir après leur travail. Parfois, ils critiquent avec raison. Que de prédications qui n'ont pas grand-chose à voir avec les textes invoqués. Ça existe dans tous les milieux. Mais étudier les textes, bien les comprendre dans leur contexte, puis formuler de manière compréhensible ce qu'on veut transmettre, demande de nombreuses heures de travail. Alors peut-être que parfois, quand on a l'impression que ceux qui nous enseignent n'ont pas assez préparé, on pourrait leur dire, mais comment est-ce que je pourrais te décharger? T'as peut-être du bois à scier? T'as tondeuse à passer? Est-ce que je peux te donner un coup de main pour te faire gagner quelques heures pour que tu prépares un peu mieux tes messages? Il y a mille... Mais c'est vrai, ça demande du temps, hein, ça tombe pas comme ça. Il faut de l'inspiration et de la transpiration. Il faut les deux. Plutôt que de critiquer, les bons commentaires, c'est cher, hein. Même les ménos, je sais pas. Ouais. Mais franchement, payez-leur des bons commentaires, payez-leur un séminaire, faut pas juste critiquer. Ayons des idées pratiques pour nous entraîner. Ensuite, un autre type de partenariat qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ce sont le partage des enseignants. On constate que les enseignants circulent. D'ailleurs, dit l'apôtre Jean, certains sont nuisibles par leur fausse doctrine. Il ne faut pas les accueillir, ceux-là. Deuxième épître de Jean. Mais d'autres, troisième épître de Jean, sont des ouvriers pour la vérité. C'est ce qu'il écrit à Gaius, un chrétien fortuné dont la maison était ouverte pour les évangélistes de passage. C'est probablement aussi le cas d'Apollos, originaire d'Alexandrie en Égypte, homme éloquent versé dans les Écritures. On le trouve à Corinthe, mais il a également exercé son activité à Éphèse. Et plus tard, il est mentionné dans l'épître à Tite, où Paul dit à Tite, écoute, prends soin du voyage d'Apollos et encore d'un autre, parce que c'est important que les nôtres apprennent à pourvoir aux besoins. Vous le pratiquez aussi, mais moi je suis reconnaissant, je vous donne juste des illustrations, hein, que dans notre milieu, par exemple, on pratique beaucoup l'échange de chèvres. On alterne, on prêche une fois ici, par là, enfin on échange. Patrick vient cette semaine chez nous, la semaine d'après, enfin, donc on échange les enseignants. Et je trouve que c'est vraiment, c'est bien parfois. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais parfois quand je sais, aujourd'hui c'est Max qui prêche, quand il va devant, je sais déjà ce qu'il va dire. Parce qu'il a son dada. Il prêche presque toujours la même chose, parce qu'il ne travaille pas assez les textes. Alors parfois c'est bien d'avoir des gens de l'extérieur qui ont une autre voix, une autre manière de faire. Donc, chez vous, c'est certainement différent, mais enfin, nous, on a ce genre de texte. Moi, je suis très reconnaissant pour la venue de Pascal il y a quelques années. Il a rencontré tous nos missionnaires et il nous a donné vraiment une formation pour gérer des conflits. Et c'était très intéressant, ça me sert souvent. Il avait des compétences qui nous manquaient. Et je crois qu'un de nos missionnaires intervient de temps en temps chez Adolphe, qui fait la sieste, salut Adolphe. C'est normal, je fais la même chose à ta place. Ensuite, la préparation des fêtes de Noël, qui sont d'ailleurs des formidables occasions d'évangéliser, demande dans nos églises un grand investissement. Et plusieurs fois ces dernières années, le spectacle ou tout le programme qu'une église avait préparé pour la fête de Noël a été utilisé dans 3 ou 4 églises différentes. Comme ça, les autres, cette année-là, n'avaient pas besoin de préparer quelque chose pour cette année, mais dire, ça sera notre tour cette année. Et on utilisera, enfin, mutualiser ce qu'on fait pour ce type d'événement. C'est vraiment une autre manière de s'entraider. La même chose, j'imagine que Pierre-Nicolas ait travaillé toute l'année avec vous l'épître de Jacques. Vous la connaissez par cœur, vous avez bien compris, et lui, il a bossé ça toute l'année, ça lui a pris des heures et des heures. Ben, on pourrait très bien imaginer qu'il le fasse dans une autre église. Et pendant ce temps, les enseignants de cette église-là, ils ont le temps de préparer l'étude pour l'année d'après. Mutualiser nos compétences, nos ressources. C'est comme les paysans, autrefois, chacun avait sa moissonneuse batteuse, maintenant de plus en plus. Il y en a une ou deux par village, et puis ils travaillent pour tout le monde. Peut-être qu'on doit faire un peu la même chose que les paysans. Il est très difficile, par exemple, pour chaque petite église, de former les animateurs jeunesse. s'il y a encore de la jeunesse. Mais on s'est rendu compte que le fait de réfléchir ensemble à sept églises différentes d'un même secteur, dire tiens, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut mutualiser nos forces pour qu'on travaille pas seulement en tant que pompier, on répond juste aux incendies là où il y en a, mais on prépare la prochaine génération. Ben, ensemble, on a trouvé les ressources. Seul, on ne les avait pas. Autre exemple de collaboration entre les églises. Il n'y a pas que les délégués qui circulent, mais il y a aussi les lettres. Ils sont d'ailleurs souvent transmises par les délégués. Aux Colossiens, Paul recommande, quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens, et que vous, vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est aussi le cas pour la lettre adressée au pluriel aux églises de la Galatie. Ensuite, les épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude ou encore l'Apocalypse sont adressés à plusieurs églises d'Asie. Je retiens de ces quelques versets qu'il y a des choses qui circulent et c'est utile à plusieurs, notamment ces lettres. Réfléchissons aux outils que, d'enseignement ou autres outils que chaque église a. Comment est-ce qu'on peut les faire circuler dans les différentes églises? On a tous les mêmes étapes. À un moment donné, on devient une association. Il faut un règlement intérieur. Il faut des statuts. Pourquoi est-ce que chacun doit refaire le monde? On peut réutiliser ce que d'autres ont fait. Et dans plein d'outils comme ça, au lieu que chacun se débrouille tout seul, on dit tiens, comment vous avez fait? Passe-moi tes outils. Après, on les personnalise, on les utilise, chacun est à l'aise avec certains outils, d'autres pas. Donc, là aussi. Moi, je suis touché que la jeune génération a beaucoup plus le réflexe réseau que nous, les vieux. Dès qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant, on a quelques missionnaires chez nous comme ça, comme une à Verdun, dès qu'elle trouve quelque chose d'intéressant, elle fait un mail à tous nos missionnaires et dit, écoute, important, un truc intéressant, tu travailles ce sujet, prends ça. Tu cherches un outil pour les enfants, prends ça. Enfin, réflexe réseau. On pense à toute la famille. C'est des choses toutes simples. Mais chacun dans son domaine découvre les choses. Pensons à les mettre à la disposition de tout le monde. Et puis on se fait un petit groupe WhatsApp, et puis tac, 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 tac. Ça ne prend pas beaucoup de temps, et vous envoyez un groupe dans le groupe. Quel vous faites partie? Moi, j'ai plein de groupes WhatsApp comme ça, où j'entretiens les relations, où je transmets. La jeune génération, ils sont tout le temps avec le téléphone. Donc, utilisons-le pour les bonnes choses. Ensuite, ça va? Vous tenez encore? On doit couper un arbre? Non, d'accord. Alors, point suivant, les conférences. C'est aussi quelque chose qui crée du partenariat. Il y en a peut-être deux. Il y en a une sûre, on connaît les choses de manière détaillée. C'est la conférence qui a eu lieu à Jérusalem dans Actes 15. Alors là, vous vous rappelez, il y a un problème qu'il faut régler. C'est comment on fait avec ces païens qui se sont convertis? Est-ce qu'on les intègre dans l'église ou pas? Est-ce qu'il faut leur imposer la loi? Enfin, il y a vraiment une grosse discussion à ce sujet. Et il faut préserver l'unité de cette église universelle. Alors comment elle va se concrétiser dans les églises locales, cette unité? Alors il y a des dissentiments. La recherche de la solution va passer par un débat entre des apôtres et des anciens. Et la recherche d'un consensus spirituel que l'Église entière peut valider. Il y a des choses intéressantes là, dans la méthode de travail. Dans cette démarche, si vous lisez Actes 15, on tient aussi compte de la situation des églises non présentes, mais qui sont représentées par l'apôtre Paul, qui rend témoignage de l'œuvre de Dieu parmi les païens. Ensuite, ce consensus va s'appuyer sur une réflexion théologique, que Jacques amène, le respect des sensibilités. Et une fois que la décision est prise, elle s'appliquait à toutes les églises. On parlait dans notre groupe ce matin, jusqu'où l'union peut-elle intervenir, l'autonomie de l'église, faut la préserver, certains assez de trop, d'autres pas assez, enfin c'est les discussions qui viennent. Est-ce que les autres ont le droit de dire quelque chose? En tout cas, on voit ici que les décisions vont s'appliquer autant aux églises majeures que sont Antioche et Jérusalem que les dernières églises implantées. Et l'église mère de Jérusalem, qui a servi de cadre à la conférence, doit elle aussi tenir compte de la situation des églises avec des païens convertis. Le week-end prochain, les anciens de l'Union Alliance pour Christ, qui regroupe les églises que nous implantons, se retrouvent et ils font ça plusieurs fois par an pour réfléchir à des sujets et dire, tiens, quelle position prend, comment vous vous faites. Et quand on a lancé, vous faites ça peut-être depuis longtemps, désolé, je raconte des choses que nous on découvre, mais pour ces anciens, quand ils ont commencé à se réunir et partager comment ils font, quelles sont leurs différentes pratiques, pour certains c'était une découverte et un enrichissement de voir, de porter ensemble les choses et de réfléchir ensemble. Donc là aussi, il y a peut-être, faut voir comment on peut traduire cette idée de conférence, de recherche de consensus avec un fondement théologique et respect des sensibilités pour les décisions à prendre. Ensuite, ce qui sert aussi à développer le partenariat, c'est l'équipe missionnaire. Si les églises sont en relation, elles le sont souvent aussi par l'intermédiaire de l'équipe missionnaire. Je crois que chez vous, Pascal circule pas mal, hein. Il crée du lien, parce que j'imagine qu'il raconte des bonnes choses à chaque endroit où il vient. Il ne faut pas tout raconter, mais quand on circule, on donne des informations d'une église à l'autre. Et donc, l'équipe missionnaire travaille à l'implantation et l'affermissement des églises, mais elle favorise aussi l'union des églises. Alors, c'est intéressant, si vous regardez dans le Nouveau Testament, on trouve les mêmes personnes à différents endroits. Barnabas, originaire de Chypre, on le retrouve à Jérusalem, il est envoyé à Antioche, et après il est compagnon de l'apôtre Paul dans son premier voyage. Tite est à Jérusalem, ensuite à Corinthe, en Dalmatie, en Crète. Priscille et Aquilas sont à Corinthe, puis à Éphèse, puis à Rome. D'une certaine manière, cette équipe joue un rôle de jointure entre les églises. Il nous faut ces personnes qui créent du lien. Il faut d'ailleurs qu'ils aient un certain profil pour le faire. Créer du lien entre les églises. Et on le constate dans les épîtres, les informations personnelles concernant telle ou telle personne circulent lors de ces voyages. On le voit à la fin des épîtres aussi, il y a toujours « Salut, fais la bise, datate », enfin une liste de personnes. Moi, je visite régulièrement toutes les équipes missionnaires de France pour Christ. Et pour moi, c'est chaque fois l'occasion de transmettre, de dire, voilà, à Saint-Avold, ça se passe comme ça en ce moment, à Valenciennes, comme ça, à Douai, comme ça, voilà les questions. Enfin, on crée du lien par l'échange d'informations. Et donc, on peut aussi réfléchir, vous avez certainement journaux et tout ce qu'il faut, mais la circulation d'informations entre les églises est très importante pour créer du lien. Et se porter réciproquement. Ensuite, septième point, je passe à l'autre chose. Il y a encore ce qu'on peut appeler les ressources pour le progrès de l'Évangile. Ce réseau de relations entre églises et entre équipes missionnaires et églises permet à l'Évangile de progresser. En fait, les églises locales deviennent des ressources pour que d'autres églises soient implantées. Qui a des fraisiers dans son jardin? Hein? Moi, j'aime cette politique du fraisier. Il a des stolons qui partent. Tchouk, tchouk. S'implante. Tac, tac, tac. Formidable image de l'implantation d'église. Un fraisier en bonne santé se multiplie. Et une église en bonne santé travaille à la propagation de l'Évangile. Il y a quelques années, non, il y a peut-être, je ne sais plus, 3-4 ans, un matin, j'allais à Drulingen, où on a le siège de la mission France pour Christ, le matin, sur l'autoroute, la A4. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est ces lumières à droite, là, dans les champs? Je regarde de plus près, sans faire d'accident. C'était des bulldozers, 3 bulldozers. Je continue quelques kilomètres, encore 3 bulldozers. En fait, ils démarraient le chantier pour le TGV. Commencer à creuser le TGV qui relie Strasbourg à, je sais plus, un truc en modèle, le dernier tronçon. Aujourd'hui, le TGV passe avec des centaines et des centaines et des centaines de gens. J'aime beaucoup cette image. On est un peu comme des pionniers là, parfois. On est comme ces bulldozers. Vous grattez un peu à l'Isen, un peu à Lignan-Barrois, un peu à Bar-le-Duc, un peu à truc. On commence à creuser. On fait notre boulot de témoin. On est lumière, truc. Mais par la grâce de Dieu, je me dis, un jour, le Seigneur peut relier ces églises. Et plein de gens peuvent être touchés. Soyons fidèles dans ce que nous avons à faire. On ne connaît pas le plan de Dieu. Lui, il connaît déjà les prochaines étapes. Creusons notre truc, faisons ce que nous avons à faire. En tout cas, on voit que ces différentes églises, je vous donne quelques exemples, comment chaque église devient une ressource pour d'autres. L'église de Jérusalem délègue qui ? Barnabas, Antioche. Antioche va déléguer qui ? Envoyer qui ? Ça vous le savez, acte 13, Saint-Esprit leur parle pendant un culte. Paul et Barnabas partent. Ils vont implanter l'église de Lystre pendant le premier voyage missionnaire. L'église de Lystre laisse partir qui ? Parce qu'il avait un bon témoignage. Timothée, qui va devenir un collaborateur de Paul dès le début de son deuxième voyage. Et on le retrouve à Éphèse. Éphèse va libérer Trophime, qu'on retrouvera à côté de Paul à Jérusalem. Et Paul écrit à la fin de l'épître aux Romains qu'il espère que l'église de Rome deviendra une tête de pont pour atteindre l'Espagne. Chaque église va devenir une tête de pont, un moyen, une ressource pour que d'autres soient créés. Et là, il y a quelque chose qui m'attriste et qui m'énerve en même temps. Toujours à nouveau, je constate dans des églises cette tendance, et surtout les grandes, à vouloir garder chaque membre pour elle-même. Ça m'énerve, ça. Mais on a absolument besoin de tout le monde ici. Parfois, ils ne se rendent pas compte de la faiblesse des petites églises qui démarrent quelque part dans un autre département en France. Quand il y en a un qui manque le dimanche matin, on a l'impression que la salle est vide ou le salon où ça démarre. Et on ne se rend pas compte qu'on a tellement de dons et tellement de richesses et tellement d'outils dans nos grandes églises. Et on oublie que dans certaines villes, les gens n'ont jamais entendu l'évangile. Moi, je suis tellement touché. J'étais touché quand on était à Seclin. On distribue les calendriers de trésors cachés. Je vais vers une jeune fille qui avait peut-être 12 ans. Je lui propose ce calendrier. Elle dit, c'est quoi ? Je dis, c'est un calendrier avec des extraits de l'évangile. C'est quoi l'évangile ? Je dis, tu sais, c'est l'histoire du Christ. C'est qui Jésus-Christ ? On est en France. Je ne savais rien du Jésus-Christ. Donc, tu commences à zéro. Je dis, mais attends. On a reçu un ordre missionnaire. Est-ce que notre Église a encore une vision missionnaire ? Est-ce que nous avons à cœur que les autres départements soient touchés ? Nous sommes faibles, mais ça ne fait rien. Même quand on est faible, on peut envoyer quelqu'un prier, participer, avoir la vision. Soyons à l'écoute, comme l'Église d'Antioche, du Saint-Esprit, pour que Dieu puisse nous dire, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, ou Maxo, ou Julie, ou j'en sais rien, pour les envoyer autre part. Est-ce que nous sommes en... Quand est-ce que le dernier missionnaire est parti de votre église ? Réfléchissez. Et vous savez ce qui me touche ? J'ai assez souvent des entretiens de recrutement, parfois avec des jeunes candidats missionnaires. Et ça me désole, c'est que souvent ce sont les anciens qui freinent dans les églises. Alors, je ne dis pas ça pour vous, hein, mais c'est quelque chose qui me touche. Je dis, mais mince ! Pourquoi est-ce qu'ils ont encore la vision de la mission que le Seigneur nous a donnée ? Pourquoi est-ce qu'ils freinent ? Parfois, c'est pour des bonnes motivations. Et heureusement qu'ils sont là, parfois, parce qu'ils sont prudents. On dit, testons-les d'abord, ce jeune. Est-ce qu'il a juste des lubies, là ? Ou est-ce qu'il veut juste profiter des sous de l'Église pour n'en rien foutre et aller à la mission ? Ça existe aussi. Mais parfois, c'est par manque de vision. Et c'est quelque chose qui me désole. Parce que Jésus est la lumière pour toutes les nations. Et si nous oublions ça, nous avons oublié une de nos raisons d'être. Regardons encore les avantages de l'esprit partenaire. Cultiver cet esprit du partenariat. Quels sont les avantages ? Premièrement, c'est conforme à l'Écriture. On l'a déjà dit ce matin, mais je vais encore une fois le souligner. Le Nouveau Testament n'envisage que peu d'actions solitaires. L'envoi en mission des disciples, c'était un groupe. Et à l'intérieur du groupe, Ils étaient à combien encore? Par deux. Dans l'Église, l'autorité n'est pas concentrée en une seule personne. La notion d'ancien est plurielle et désigne toujours un groupe de personnes. Quand on regarde dans les épîtres pastorales, Timothée et Tite se voient attribuer un rôle assez important. Mais en même temps, ils sont sous l'autorité de Paul. Et cette autorité qu'ils ont s'exerce selon des instructions qu'ils ont reçues. Vous regardez le livre des Actes. Bien sûr, Pierre et Paul sont des figures importantes. Mais Pierre et sa direction s'effacent progressivement dans le livre des Actes. Et l'apôtre Paul est presque toujours associé à d'autres. 11 fois Paul et Barnabas, 9 fois Paul et Silas, 2 fois Paul et ses compagnons. Ensuite, les images de collectivité de l'Église vont aussi dans ce sens. Donnez-moi quelques images qui représentent l'Église dans le Nouveau Testament. Le corps, l'épouse, le temple, le troupeau, plusieurs images collectives. Notamment celle du corps, avec un fonctionnement coordonné qui demande la participation de chacun. Et cette vision de la collégialité concerne tous les groupes de service dans la mission, l'Église et les unions d'Église. Vision de la collégialité. Je crois que c'est conforme à ce que l'Écriture enseigne. Ensuite, travailler en partenariat donne aussi un sentiment d'appartenance. En moyenne, il faut 15 ans en France pour implanter une église. Et franchement, c'est un boulot difficile, où il faut de la persévérance. Les gens viennent, font un début avec le Seigneur, prennent un mauvais choix dans leur vie, ils repartent, on attend que leur vie soit cassée, quand ils sont tout en bas, ils se repentent de nouveau, et alors là, ils reviennent et s'accrochent vraiment. Mais pendant tout ce temps, le missionnaire doit tenir. Il faut de la persévérance. Tu te présentes au marché, ah, je suis le pasteur missionnaire... de Ligny-en-Barrois, non, ça ne marche pas chez vous, de Reims. Ah, vous êtes pasteur de quelle église? Ah, elle n'existe pas en train, je suis en train de la former. Quand vous démarrez comme implanteur, quand vous vous présentez dans les discussions, vous êtes personne, c'est quoi ce zigoto là qui nous embête? Qu'est-ce qui vient foutre ici à nous déranger? Tu dis, mais mince, j'ai abandonné mon boulot, j'ai abandonné ma région, je perds mon temps. Je me rappelle quand j'ai démarré dans la région Beach, on a fait 42 villages en colportage. J'arrive à l'après-midi chez un paysan, il me regarde, il prend mon sac et dit « T'as rien d'autre à foutre ici que de nous embêter avec ton évangile, laisse-nous donc tranquille. » Je me suis dit « Mince, pourquoi est-ce que je ne suis pas resté chez moi ?» Mais heureusement que Dieu a donné la force et aujourd'hui il y a une église et une autre et ça multiplie. Mais donc, quelque part, le fait de faire partie d'un groupe est quelque chose de très important. Beaucoup de pasteurs et de missionnaires souffrent d'isolement. Quand on circule, on se rend compte que beaucoup n'ont pas de vis-à-vis. On peut parfois faire partie d'une union, d'une mission, et en même temps être seul, ne pas avoir vraiment de vis-à-vis. C'est un vrai défi. C'est aussi important pour les jeunes de nos églises. Quand tu es au lycée, au collège, et tu ne connais peut-être juste un autre chrétien adolescent, tu dis, mince, je dois faire partie d'une drôle d'espèce, moi. C'est qui ces évangéliques? Tu n'es pas sûr de ton identité propre. Tu ne sais pas très bien qui c'est les évangéliques. Ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas protestants. Mais ils sont quoi, en fait? Enfin, c'est difficile parfois pour les jeunes. Et le fait de faire partie d'un réseau, d'avoir joie et vie, d'avoir des candes, c'est très important. Le sentiment d'appartenance. Ensuite, troisièmement, la synergie. J'ai presque terminé. La synergie. C'est pas un gros mot. Je vous donne la définition. Le terme synergie désigne l'effet cumulatif de l'action de deux composants. dont les actions combinées donnent un résultat plus important que la somme des effets attendus de chacun des composants pris séparément. Vous voulez que je répète? C'est dire pendant la sieste. Hein. Voilà. Le travail qui est produit est plus que la somme du travail produit par chaque partie. Je vous donne un exemple. On a une équipe communication à France Pro Christ. Quand je suis un certain nombre de travaux, je les fais à la maison chez moi, parce que quand je suis au siège, la mission c'est le moulin, je ne peux pas bien réfléchir. Donc, quand je réfléchis à un sujet, comment on va communiquer là-dessus? Ok, je développe des idées. Je viens de Rüdingen, je travaille avec l'équipe communication. Je partage ce que j'ai trouvé, l'autre donne une réaction, le troisième donne une réaction, le quatrième donne une réaction, ça suscite chez moi des idées, ce que moi je vais rajouter donne de nouveau des idées à l'autre, et à la fin, on a un résultat que j'aurais jamais pu imaginer seul ni l'autre. La synergie. Quand on travaille ensemble, il y a une stimulation qui se fait entre nous et on va beaucoup plus loin et on développe d'autres choses et plus de créativité que quand on travaille seul. Vraiment, je constate ça. Je me rappelle de réunions d'anciens dans l'église d'Altenkendorf où je suis. Il y a 12 anciens et diacres. Parfois, maintenant, je n'y participe plus parce que je suis trop souvent absent. Mais quand je travaille encore avec cette équipe d'anciens, parfois quand on abordait un sujet, je dis « Waouh !» Aucune idée comment on pourrait faire. C'est un premier tour de table. Deuxième tour de table. Et brusquement, il y en a un qui dit quelque chose. Il dit « Waouh !» Là, c'est une porte ouverte. On creuse. Et après, on a vraiment besoin les uns des autres. Ensuite, 2.4. Le fait de travailler en partenariat contribue au développement individuel. L'homme s'affine, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Proverbe 27, verset 17. Dans notre manière de penser, la formation, c'est souvent que la transmission d'informations. Et donc, on transforme, comme aujourd'hui, durant cette partie, la salle d'église en salle d'école. Le maître est devant, distille un peu de savoir, s'il sait quelque chose, parfois il ne sait pas grand-chose comme moi, mais on distille de l'information. Et on pense, maintenant, les gens rentrent, dimanche prochain, ils reviennent, on fait un nouveau cours, au revoir, et ça, c'est de la formation. Non. Dans la vision biblique, ça, c'est pas de la formation, c'est de l'instruction. Mais la formation vise le caractère, les compétences, la transformation de toute la personne. Et cela nécessite pas seulement la transmission de savoir, mais le fait de se frotter à d'autres. Tout comme le fer se polit par le fer. Si le fer de l'arrache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts, dit Ecclésiaste. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Donc ne travaillons pas comme des bourrins tout en force, mais comme des bœufs avec la tête. Non, pardon. Non. Que ceci soit effacé. Le fer élise le fer. Par exemple, j'aurais pu le faire aujourd'hui, ça aurait certainement été intéressant, distribuer un questionnaire d'évaluation à des membres qui vous écoutent prêcher, vous donne des retours formateurs. Moi, je le fais de temps en temps dans les églises où je vais. Je distribue à quelques personnes des questions. Je dis, écoute, tu m'évalues à la fin. Tu dis ce qui est à peu près bien et puis ce que je devrais corriger. Et parfois, je reçois vraiment des informations très intéressantes. Et je viens plusieurs fois aujourd'hui de faire cette erreur. Quand j'étais à Mulhouse, un monsieur m'a dit, ou à Célestin, je ne me rappelle plus, il m'a dit, écoute, Jeannot, souvent tu avales la fin de tes phrases. Quand on est assis derrière, on ne comprend pas la fin. Je suis content qu'il me l'ait dit. J'ai prêché dernièrement à Beach, il a dit, écoute, Jeannot, c'était pas assez structuré. Tu aurais mieux dû construire cette prédication. Ben, c'est très bien. Je fais attention maintenant. J'ai 7 points. Non mais, demandons de l'évaluation. Ça nous aide beaucoup. Moi, je suis plutôt visionnaire et un peu comme ça, intuitif. Mais j'ai une assistante à France Pro Christ qui est juste l'inverse. Sandrine est méticuleuse, structurée, et quand elle relit ce que j'écris pour le journal, oh là là, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, et Jeannot, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais c'est formidable pour moi. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut se frotter aux autres. Ensuite, ça a encore un avantage, c'est l'équilibre dans l'importance donnée aux idées et aux personnes. J'explique. Certains d'entre nous sont de type requin. Vous demanderez à Pascal ce que ça veut dire. Ils sont surtout portés sur l'efficacité. Quand on discute de quelque chose, tac, 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 ça c'est efficace, le reste on n'a rien à tirer. D'autres sont plutôt de type nounours et sont très sensibles à ce que la personne vit, ressent. Et ils sont sensibles à la répercussion sur la personne de la décision qu'on vient de prendre. Peter Maiden, qui est directeur de OM, écrit dans son livre en allemand Jüngerschaft qu'il a constaté parmi les 5500 collaborateurs que le partage entre hommes se situe le plus souvent sur le plan des sentiments, des idées. Quand nous on parle les hommes, on partage presque toujours des idées. Alors que les femmes partagent, privilégient le ressenti. Et donc, quand dans des instances où on réfléchit, il y a des femmes et des hommes, ça donne parfois un équilibre. Parfois, quand je dis à ma femme, dans le conseil de mission, on a pris cette décision, mais franchement, vous n'avez pas pensé à ça, hein? Heureusement qu'on a nos épouses. Mesdames, merci pour le service que vous nous rendez. Ensuite, 2.6, ben, l'union fait la force. C'était la devise de la COP, mais c'est vrai aussi pour nous. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. En 2016, 100% connecté n'était pas dans la Meuse, mais on est allé aider une équipe au Québec, à Québecville. Waouh, j'ai découvert des quartiers difficiles, je vous explique. Durant des heures, on a distribué des sachets là-bas, ils ne mettent pas dans la boîte aux lettres, ils distribuent des sachets avec un évangile dedans, ainsi de suite. Il faut l'accrocher aux portes. Mais dans énormément de maisons, il y a un escalier en colimaçon à l'extérieur, et il faut monter au troisième étage. Il faisait chaud durant des heures et des heures, je marchais d'un côté de la rue, tu montes au troisième, pourquoi ils ne mettent pas les boîtes aux lettres en bas les soirs? Waouh, ça m'énerve. Tu accroches ton truc, tu redescends, prochain immeuble, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que j'étais content que de l'autre côté, il y avait un frère qui marchait aussi. De temps en temps, on pouvait s'arrêter, parler, prier. Ben, on a besoin de l'union de la force. J'en connais d'autres choses. On a un autre exemple. Il y a 2 ans, on a travaillé, évangélisé sur la place d'armes à Douai. Dieu a ouvert une porte, on a eu la place principale, Manu Richer, enfin plein de choses comme on a fait en Meuse, sur la place d'armes à Douai. Et on est parti pour faire des questionnaires, pour accrocher les gens. Il y avait une jeune Vosgienne qui était là. Et juste avant le départ, elle s'est effondrée en pleurs. Elle a dit, écoute, moi je ne peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça. Alors je lui ai dit, écoute, viens, on va le faire ensemble. Tu écoutes d'abord, tu regardes comment je fais. Puis elle m'a accompagné, on a accosté quelques personnes. Une heure après, elle m'a dit, écoute, Jeannot, je crois que je peux y aller. Elle a pris une copine de son âge et elles ont commencé à faire des questionnaires. Ils ont choisi un public jeune, je sais, et elle est revenue. Ah, c'est bien. L'union fait la force et on apprend les uns des autres. Je termine avec les freins. Qu'est-ce qui freine? Alors il y a une première, on pourrait dire, c'est l'aspiration papale. Ça n'existe pas que chez les cathos. Jean parle de Diotrephe dans son épître. Qu'est-ce qu'il aimait bien faire, Diotrephe? Plus fort? Ouais, il aimait bien tout régenter dans son église et n'accueillait pas l'équipe envoyée par Jean. Ah, la peur de ne pas être le patron dans l'église locale. Alors j'ai remarqué, on emmène tous dans nos valises ce qu'on est dans le séculier. Enfin, non mais tu fais des vanneries. Enfin, pardon. Non, je cherchais un lien. Pardon. Excuse. Non, je veux dire, chacun ramène dans l'Église ce qu'il apprend aussi dans le monde du travail. Et j'ai remarqué, par exemple, chez certains chefs d'entreprise, qui sont aussi anciens, ils ramènent leur méthode de travail dans l'Église. Et parfois, ils ne supportent pas de ne pas être le chef de l'Église, comme ils sont chefs de l'entreprise. C'est une tendance naturelle, et c'est que l'équipe qui te quitte. L'équipe a toujours un effet miroir. Je pense à des exemples, excusez-moi. Et donc, ça, il te permet de te rendre compte. Ah bon, je suis comme ça. Dernièrement, j'ai me reprendre dans une équipe comme ça. Et un des autres, après 2 ans de travail ensemble, il m'a dit, écoute, il faut que je dise. Je lui ai dit, écoute, maintenant tu commences par écrire ce que tu penses de ton frère et tu vas lui envoyer. Comme ça, tu n'as pas à subir ses premières réactions qui sont parfois charnelles. Et donc, il lui a écrit, et alors on s'est vu ensemble à froid, encore avec sa femme, et on a rediscuté de ces points. Et le gars lui avait dit, écoute, tu veux toujours dominer la discussion. Et tu me manipules quelque part pour arriver à tes fins. Alors il dit, non, mais écoute, je ne suis pas comme ça. Alors sa femme intervient, elle dit, si, tu es comme ça. C'est l'équipe qui nous permet de nous rendre compte de notre fonctionnement. On a besoin du regard des autres. Et vous savez, c'est un cadeau. Parce que le jour où on n'a plus personne qui peut nous résister, on est en danger et on met en danger l'Église. C'est essentiel que nous ayons des personnes qui nous aiment assez pour nous dire la vérité. C'est ceux qui ne nous aiment pas qui ne nous disent pas la vérité. Ils s'aiment d'abord eux et leur tranquillité. Mais si j'aime quelqu'un, mes relations doivent être conjuguées l'amour et la vérité. Il y en a d'autres qui ont cette tendance à vouloir tout régenter. Quand à la maison, la femme porte le pantalon, l'homme a tendance, dans l'église, je suis quelqu'un. À la maison, j'ai rien à dire. Mais à l'église, mes amis, vous avez intérêt à m'écouter. Mais pas toujours conscient. Mais quand vous regardez parfois de près, on se rend compte que le fonctionnement familial conditionne le comportement de l'homme ou de la femme. D'ailleurs, aussi dans l'église. Ça aussi, c'est important de parler parfois entre conjoints et dire, tiens, qu'est-ce qui me motive ? Je pense aussi à telle église, avec un seul ancien, un vieillard respectable qui s'est battu, mais qui est aujourd'hui enlisé dans une culture d'un autre temps. Et il prend des décisions pour les jeunes qui sont là, qui étaient bien dans sa culture il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est le couvercle sur la jeune génération. Et quand on n'écoute pas, ben qu'est-ce qu'ils font les jeunes ? Ils n'entendent pas. Alors, rien à cirer avec les autres familles non ou pas. Ils vont retrouver un autre réseau où on leur donne la place, où ils peuvent s'engager et où on respecte. Moi, je pense qu'il y a un temps. Moi, je vais me retirer. Je suis en train de préparer ma sortie. J'ai encore 3 ans comme à la direction de France pour Christ. Mais on est en train de préparer la suite. Il faut absolument. Sous un vieux chêne, les petits ne peuvent pas grandir. Donc il faut couper le vieux chêne, travailler le bois, en faire autre chose. Mais il faut qu'il dégage. Sinon on freine la multiplication dans l'église. Et on se plaint après qu'il n'y ait pas de relève. Mais on est nous-mêmes le frein. Ah. Parfois c'est à pleurer, je connais des missions comme ça, qui n'ont pas su faire confiance. Et parfois on fait la même chose. Et alors la jeune génération soupire. Parfois, ils sont spirituels, ils patientent des années. Enfin, je ne sais pas si c'est spirituel, mais ils patientent. Et les vieux restent indéboulonnables. C'est à pleurer. Qu'est-ce qui motive ce refus de céder la place ? Il faut y réfléchir. Hein. En tout cas, j'en félicite Gaius de tenir tête à ce dictateur clérical en attendant qu'il vienne lui-même le remettre en place. Il y a un autre frein, c'est l'illusion d'être suffisant. Ça existe chez l'individu, mais aussi chez les églises. Voilà, c'est l'œil qui dit à la main, je n'ai pas besoin de toi. Il y a des individus qui transpirent la suffisance. Tu les écoutes, ils font les questions, les réponses. Vous avez été comme ça ou vous en avez dans l'église comme ça? Bonjour. Ils ont un avis sur tout. Et c'est blanc ou noir, hein? Pas de nuance. Suffisant. Besoin de personne. Je pense à un responsable d'une église indépendante. 7 membres dans l'église. On lui propose dans la région où on évangélise, est-ce qu'on peut vous donner un coup de main? Ah non. Besoin de personne. Je ne suis pas sûr que les 7 membres de l'église pensent la même chose. Hein. Ni son épouse. Et ce sont parfois les églises les plus grandes qui sont les moins sensibles aux besoins des autres, car elles arrivent à se débrouiller toutes seules plus facilement. L'illusion d'être suffisant, mais c'est une illusion. Je me rappelle quand l'église à Deckendorf est née, Nicolas Pesely, Daniel Herman, c'était des... Attention, ils avaient une vision, des évangélistes et ainsi de suite. Et à un moment donné, on s'est réunis avec eux, on leur a dit, vous n'êtes pas suffisant. Vous avez des dons pour une partie du travail, mais pas pour les autres. Il faut que d'autres viennent. À un moment donné, on a tiré nos cartouches. On a dans notre équipe qui sont très très doués pour l'accrochage avec des incroyants. Mais tu les mets en situation, il va former les anciens, zéro. Et l'inverse. On n'est pas tous bons en tout. Et c'est pour ça qu'il faut une rotation dans les équipes et réfléchir régulièrement. Est-ce que je suis encore à ma place ou est-ce qu'il est grand temps que l'Église ait quelqu'un d'autre qui est mieux adapté à ses besoins de maintenant? Ensuite, un autre frein, le refus de faire confiance au Saint-Esprit qui qualifie les plus jeunes. Moi, j'aime beaucoup Caleb. C'est un homme de foi. Et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il y a là une ville à prendre, Kirja. Si quelqu'un la prend, je lui donne ma fille en mariage. Ah, Othniel entend ça, il dit, waouh, je suis pas encore marié. C'est le moment. Et le Saint-Esprit va le saisir. Et il va conquérir la ville. Il faut que nous, les vieux, on dise à la jeune génération, voilà le terrain à prendre, regardez-le, on vous soutient, allez-y. Dans le livre des juges, Dieu a laissé des ennemis, dit le texte, pour que la prochaine génération apprenne à se battre. Et je trouve chaque église, chaque génération doit réfléchir. Quelle est la... discutée dernièrement avec Beach. Quelle est la prochaine ville que Beach peut envisager? Quel est le terrain qu'il faut conquérir? Quel est le domaine où on est nul, où il y a absolument quelque chose à prendre? Laissez les jeunes proposer. Ils voient souvent plein de choses que nous, on ne voit pas. Et dire, ok, on va être le Caleb, on va être derrière toi, on va vous soutenir. Moi, je suis si reconnaissant à mon formateur, Nicolas Pesely, qui était le fondateur de la mission. Il avait cette qualité de mettre tout le monde au boulot, à nous faire confiance. À 17 ans, il me dit, Jeannot, samedi prochain, il y a évangélisation dans tel village. Tu vas prêcher. Moi, je prêchais. 17 ans, j'ai aucune formation. Mais franchement, je n'ai jamais lu autant la Bible que cette semaine-là. Je cherchais un texte, mais je me disais, sur quoi je peux prêcher, moi, dans le village? Moi, je n'ai jamais à ce feu de camp. Et je crois que c'est le mercredi. Il y a un autre frère qui passe et dit, écoute, j'ai lu un texte intéressant, acte 17, la prédication à Athènes. Mais je pourrais encore la faire aujourd'hui, cette prédication. Mais je suis tellement reconnaissant qu'il nous ait mis en selle à 17 ans. Allez, vas-y. Alors parfois, il aurait pu nous former un peu plus, on aurait raconté moins de bêtises. Mais ça fait rien. Il nous a fait confiance et il nous a corrigé après. La première prédication, j'ai donnée à l'église à Teckendorf. J'avais découvert, j'avais peut-être, je sais pas, 17 ans aussi, j'avais découvert qu'il y avait un jardin dans la Genèse et un jardin dans l'Apocalypse. Et j'ai essayé de faire quelque chose sur le jardin. Après une demi-heure, il m'a dit, bon, Jeannot, je crois que ça suffit maintenant, tu retravailles ton message et tu le feras une autre fois. Pas grave, mais c'est très bien. Mais c'était l'occasion. Il faut que l'église soit le chantier où je peux faire des fautes, où j'apprends. C'est pas un lieu où on sait tout, mais c'est un disciple, ça veut dire quoi? Apprenti. L'église est un rassemblement d'apprentis. Donc laissons notre chance aux jeunes. Moi, j'essaye d'appliquer ça. d'avoir cette délégation formative, que ce soit comme animateur groupe de jeunes, où je l'ai été, de directeur de centre de vacances ou d'implanteur d'église, de formateur BAFA. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte, quand on le pratique, ben les jeunes, les suivants font souvent beaucoup mieux que nous. Et heureusement, Karl Lagerfeld a dit que sa plus grande crainte, c'est que quelqu'un qui l'a formé fasse mieux que lui. Il y a aussi les Karl Lagerfeld dans les églises. Dernière idée. Le manque de vision de la multiplication. En 3 ans, Jésus en a formé combien? 12. Très bien. Et pour cela, il les a pris avec lui. Et Paul donne ce conseil à Timothée. Ce que tu as entendu en moi, de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 4 générations sont mentionnées dans ce verset. Paul, Timothée, les hommes fidèles et les autres. Nous ne sommes pas d'abord des organisateurs de réunions, mais des formateurs d'hommes et de femmes. Nous ne sommes pas des organisateurs de réunions, mais des formateurs d'hommes et de femmes aux côtés desquels nous nous tenons. Jésus en choisit 12 pour les avoir avec lui. Est-ce que tu chemines avec quelqu'un? Tu l'as raconté avant, tu chemines avec plusieurs personnes. Est-ce que chacun d'entre nous est en train de cheminer avec quelqu'un qu'il est en train de former? Je termine avec une image parce que je l'ai promis à l'un d'entre nous. Ceci est un tractopelle. C'est pas moi qui l'ai construit, c'est un de mes fils. Moi, je trouve ça très intéressant. Parce qu'un tractopelle, il a 2 godets. Un devant, et il a un autre godet derrière. Ça s'appelle godet, hein, je crois. Aussi ici, très bien.
Godet rétro.
Godet rétro. Pelle rétro. Pelle rétro, très bien. Il y a des spécialistes ici. Très bien. Il y a des chrétiens, des responsables d'église, de groupes de jeunes, des missionnaires. Ils utilisent toujours ce godet. Qu'est-ce qu'il fait ce godet? Il ramène tout à moi. Tout le temps comme ça. Tout doit passer par eux dans l'église. Aucune décision se prend sans que le godet ait travaillé. Tout passe par moi. Et moins on est sûr de sa théologie, et de sa pédagogie et de sa stratégie, plus on utilise celui-là. Parce qu'on craint d'autres manières de faire. Donc souvent, c'est un manque d'assurance et de formation qui nous pousse à faire tout le temps comme ça. On tire toutes les ficelles. Et quand il y a un autre tractopelle qui vient, oh là 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 là, attention, il va gratter un peu de terre. Surtout pas de partenariat. À quoi va servir mon godet? Et à la fin, quand on est usé et que le bras est usé, on se retrouve seul et pas de relève pour la prochaine génération. Puis, il y en a d'autres qui apprennent à utiliser le godet d'avant. Avec celui-là, je peux pousser de la terre pour fortifier la position de l'autre. Ah, tu es doué pour ça, c'est formidable. Voilà quel livre tu peux lire. Écoute, je te donne ce conseil. Voilà, je vais prier avec toi. On pousse la terre pour fortifier la position de chacun. Tous les dons nous sont donnés pour l'utilité commune, pour la formation des saints. Donc, apprenons à utiliser ce godet. Et pas tout le temps faire comme ça. Sinon, ne nous plaignons pas si demain nous n'avons pas de relève et pas d'autres personnes formées et pas de membres d'église engagés. S'il n'y a personne qui s'engage, c'est parfois, il y a bien d'autres raisons, mais parfois c'est parce que nous n'utilisons que ce godet plutôt que d'utiliser d'autres, pousser d'autres à utiliser le leur. Enfin, Vous avez compris l'image?
Oui.
Très bien. Merci.